Chapitre 9. Je me disais, sombre donc, maudit Raffio, sombre donc! C'est en ces termes que Jim reprit son récit qu'il avait hâte d'achever. Les autres l'avaient abandonné avec mépris à sa solitude, et c'est dans son cœur qu'il formulait, sur un ton d'imprécation, cette apostrophe à l'adresse du navire. Il restait cependant l'heureux spectateur de scènes qui devaient, à mon sens, être de basse comédie. Les coquins continuaient à s'acharner sur le pêne de leur canot. Le capitaine criait « Passez dessous et tâchez de le soulager !» Mais naturellement les autres renâclaient. Vous comprenez que l'idée de se trouver pris à plat ventre sous une quille de canot et de sentir le bateau s'enfoncer tout à coup ne leur sourit que médiocrement. « Pourquoi ne vous y fourrez-vous pas, vous qui êtes le plus fort ?» geignait le petit mécanicien. « God fortam, je suis trop gros !» redouillait le patron avec désespoir. C'était d'un drôle à faire pleurer les anges. Ils restèrent un instant indécis, puis, brusquement, le chef mécanicien se précipita sur Jim. « Allons, vous, venez nous aider. Êtes-vous fou de renoncer à votre seule chance de salut? Venez nous aider, entendez-vous? Tenez, regardez là-bas, regardez !» Et Jim finit par regarder, à l'arrière, un point que l'autre lui désignait avec une insistance de maniaque. Il vit une ombre silencieuse et noire qui avait déjà mangé un tiers du ciel. Vous connaissez les grains qui éclatent dans ces parages-là à cette époque de l'année? On commence par voir simplement l'horizon s'assombrir, puis un nuage s'élève, opaque comme un mur. Une crête droite de vapeur, frangée de lueurs sales et livides, surgit du sud-ouest et dévore les étoiles par constellation tout entière. Son ombre vole sur les flots et confond le ciel et la mer dans un abîme unique d'obscurité. Tout est calme pourtant, pas de tonnerre ou de vent, pas la moindre lueur d'éclair. Puis dans l'immensité des ténèbres se dessine une voûte blême. On sent passer une ou deux ondulations comme des frémissements de l'obscurité même. Et tout à coup, vent et pluie se déchaînent avec une impétuosité particulière, comme s'ils venaient de faire irruption à travers une surface solide. C'est un nuage de ce genre qui s'est élevé, pendant que les misérables avaient les yeux tournés. Ils venaient de l'apercevoir, et ils jugeaient avec raison que si, dans un calme parfait, le navire avait quelque chance de tenir encore un instant, la moindre agitation de la mer l'achèverait aussitôt. Son premier soulèvement sur les lames, qui précède un orage de ce genre, serait aussi le dernier, se terminerait en immersion, se prolongerait, pour ainsi dire, en un plongeon sans fin, plus loin, toujours plus loin, jusqu'au fond de la mer. De là chez eux un sursaut nouveau de terreur et des grimaces nouvelles par quoi se traduisait leur horreur extrême de la mort. « Un nuage noir, noir !» poursuivait Jim avec un calme morose. Il était venu sournoisement derrière nous, le maudit. Il devait y avoir une ombre d'espoir encore dans ma tête, je ne sais pas. Mais tout était bien fini maintenant. Cela m'affolait de me sentir traqué de cette façon. J'enrageais comme si j'avais été pris au piège. Et je l'étais bien pris. La nuit était chaude, je m'en souviens, et sans un souffle d'air. Il se souvenait si bien que je le voyais halter sur son siège, sué et étouffé devant mes yeux. Le souvenir l'affolait encore et le terrassait, pour ainsi dire, à nouveau, mais lui rappelait aussi la brusque impulsion qu'il avait fait courir à la passerelle pour lui sortir aussitôt de l'esprit. Il voulait libérer les canots de sauvetage. Il sortit son couteau et se mit à la besogne, taillant et rognant comme s'il n'eût rien vu, rien entendu, rien connu à bord. Les autres le crurent tout à fait détraqué, éperdu de terreur, mais n'osèrent pas élever de protestations bruyantes contre une perte de temps inutile. Quand il eut achevé, il revint à l'endroit d'où il était parti. Il y trouva le chef mécanicien qui lui saisit l'épaule et lui murmura tout près d'un ton rageur comme s'il eût voulu lui mordre l'oreille. « Espèce d'idiot ! Croyez-vous que vous ayez une ombre de chance quand cette bande de brutes sera à l'eau? Vous verrez comment elles vous fracasseront la tête de ces canots-là. » Il serrait le coude de Jim qui le laissait faire sans s'en apercevoir. Le capitaine trépignait furieusement sur place et grondait. « un marteau, mein Gott, tenez-moi un marteau !» Le petit mécanicien pleurnichait comme un enfant, ce qui ne l'empêcha pas, semble-t-il, de se montrer le moins poltron de tous. Il finit par trouver assez de cœur pour courir à la chambre des machines. Jim me raconta qu'il avait lancé des regards éperdus, comme un homme acculé, puis poussait un gémissement sourd, avant de prendre son élan. Il revint presque aussitôt, escaladant l'échelle, marteau en main, pour se jeter sans hésitation sur le pêne récalcitrant. Renonçant à émouvoir Jim, les autres coururent à la rescousse. Jim entendit le tap-tap du marteau, puis le bruit du support libéré qui tombait. Le canot était dégagé. C'est alors seulement qu'il se retourna pour voir. Alors seulement. Mais il gardait sa distance. Il gardait sa distance. Il voulait bien me faire comprendre qu'il gardait sa distance, qu'il n'y avait rien de commun entre lui et ses hommes avec leur marteau. Rien du tout. Il est plus que probable qu'il se sentait séparé d'eux par un espace infranchissable, par un insurmontable obstacle, par un abîme sans fond. Il mettait toute la distance qu'il pouvait entre eux et lui, toute la largeur du navire. Ses pieds étaient collés à cet endroit écarté, et ses yeux rivés sur le groupe indistinct des hommes, dont la torture d'une commune terreur courbait en même temps et faisait étrangement osciller les ombres. Une lampe à main, fixée à un montant au-dessus d'une petite table dressée sur la passerelle, le patenat n'avait pas de chambre de veille de milieu, laissait tomber sa lueur sur leurs épaules bandées, sur leur dos voûté et arqué. Ils poussaient sur l'avant du canot. Ils poussaient dans la nuit et n'avaient plus de regard pour Jim. Ils avaient renoncé à son aide, comme s'il eût été en effet trop lointain, trop inéluctablement séparé d'eux pour valoir la peine d'un mot d'appel, de regard ou d'un signe. Il n'avait pas le temps de s'occuper de son héroïsme passif, de sentir la blessure de son abstention. L'embarcation était lourde. Il la poussait par le bossoir et n'avait pas de souffle à perdre pour un mot d'encouragement. Mais la confusion de terreur qui emportait leur courage, comme un fétu chassé par la tempête, faisait de leurs efforts désespérés une sorte de dérision. Bonne ma parole pour une farce de clown dans une parade. Ils poussaient avec la main, avec la tête. Ils poussaient pour leur vie, de tout le poids de leur corps, de toute la puissance de leur âme. Seulement, à peine avaient-ils réussi à dégager du porte-manteau l'avant du canot, que suspendant simultanément leur effort, ils se ruaient dessus pour s'y précipiter. Conséquence naturelle, le bateau avait un brusque retour qui les repoussait, frémissant et pressés les uns contre les autres. Ils restaient un instant démontés, échangeant en grondements farouches les noms les plus infâmes qu'ils pussent trouver, puis ils se remettaient au travail. Trois fois la scène se renouvela. Jim me la décrivait avec une morne précision. Il n'avait pas perdu un geste de toute la comédie. Je les exécrais, je les haïssais. Et il me fallait regarder tout cela, m'expliquait-il sans emphase, en tournant vers moi un regard sombre et soupçonneux. Avez-vous jamais vu homme soumis à une épreuve pareille? Il se prit un instant la tête entre les mains, comme un homme affolé par quelque inexprimable outrage. C'était la chose qu'il ne pouvait expliquer au tribunal, ni même à moi. Mais j'aurais été bien peu digne de ses confidences si je n'avais su, de temps en temps, comprendre les silences qui pesaient entre ses paroles. Dans cet assaut contre sa force d'âme, il y avait une intention méchante de vengeance haineuse et vile. Il y avait un élément burlesque dans sa torture, la dégradation de grimaces grotesques à l'approche de la mort et du déshonneur. Il me racontait des faits que je n'ai pas oubliés, mais à cette distance, je ne saurais retrouver les termes mêmes dont il usait. Je me souviens seulement qu'il réussissait parfaitement à faire passer dans son simple récit l'impression de sa sourde aversion. Deux fois, dit-il, il ferma les yeux devant la certitude de la fin arrivée, et deux fois il dut les rouvrir à nouveau. Chaque fois, il remarqua l'obscurité croissante de la vaste immobilité. L'ombre du nuage silencieux, tombé du zénith sur le navire, semblait avoir étouffé tous les bruits de sa vie débordante. Jim n'entendait plus les voix sous les tentes. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, un éclair de pensée lui faisait voir, clair comme le jour, cette foule de corps, tout prêts pour la mort. Quand il ouvrait les paupières, c'était pour assister à la lutte confuse de quatre hommes, se battant comme des fous contre un canot rétif. De temps en temps, il reculait, se mettait à jurer les uns contre les autres, puis se ruait brusquement à nouveau, tous à la fois. Il y avait de quoi mourir de rire, concluait Jim en baissant les yeux, puis il les leva un instant vers les miens avec un sourire lamentable. Ma vie devrait en être égayée par Dieu, car je reverrai souvent ce spectacle grotesque avant de mourir. Sa tête retomba. Je reverrai et j'entendrai. Je reverrai et j'entendrai, répéta-t-il à deux reprises à de longs intervalles, avec un regard vide. Il se leva. J'étais décidé à garder les yeux fermés, reprit-il. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, et peu m'importe qu'on le sache. Qu'ils aillent donc affronter cette sorte d'attente avant de parler. Qu'ils y aillent. Et qu'ils fassent mieux, voilà tout. La seconde fois, mes paupières s'ouvrirent et ma bouche aussi. J'avais senti le bateau remuer. Il piquait de l'avant pour remonter doucement, lentement, interminablement lentement. Et si peu. Il n'en avait pas fait autant depuis des jours. Le nuage avait passé devant nous, et cette première ondulation semblait courir sur une mer de plomb. Il n'y avait pas de vie dans ce mouvement, mais c'en fut assez pour me renverser quelque chose dans la tête. Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous êtes sûr de vous, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous feriez maintenant, à cette minute précise, si vous sentiez cette maison bouger, bouger un tant soit peu sous votre siège? Un bond par le ciel, vous ne feriez qu'un bond de l'endroit où vous êtes assis, jusqu'au buisson là-bas. Il faisait un geste du bras dans la nuit, au-dessus de la balustrade de pierre, et fixait sur moi un regard insistant et sévère. Pas d'erreur, c'est moi qu'il rudoyait maintenant, et je me gardais de faire le moindre geste, de lâcher le moindre mot, qui aurait pu m'amener à un aveu fatal et de nature à faire pencher la balance. Je ne me sentais pas d'humeur à courir un risque de ce genre. Souvenez-vous que je le voyais devant moi, et que réellement il était trop bien l'un des nôtres pour n'être pas dangereux. Mais je n'hésiterai pas à vous avouer, s'il vous plaît de le savoir, que je supputais d'un coup d'œil furtif la distance qui me séparait de l'épaisse masse d'ombre étalée au milieu de la pelouse devant la véranda. Il exagérait, je serais tombé à quelques pieds plus près, et c'est bien la seule chose dont je puisse répondre. La dernière minute était arrivée, se disait-il, et il ne bougeait pas. Ses yeux restaient collés aux planches, et ses pensées se déchaînaient dans sa tête. C'est à ce moment même qu'il vit l'un des misérables penché sur le canot, faire brusquement un pas en arrière, battre l'air de ses bras levés, trébucher et s'affaler. Il ne tomba pas précisément. Il glissa doucement et se trouva assis, le dos voûté et les épaules collées contre le capot de la chambre des machines. C'était le chauffeur auxiliaire, un garçon farouche à visage blême et à moustache hérissée. « Il faisait le troisième mécanicien, » expliqua Jim. « Mort ? » demandai-je. L'enquête nous avait appris quelque chose de ce genre, en effet. « Il paraît, » répondit-il, avec une sombre indifférence. « Naturellement, je n'en savais rien. » Faiblesse du cœur, le pauvre diable se plaignait depuis quelque temps de n'être pas dans son assiette. L'émotion, l'excès de fatigue, le diable sait quoi. Il était facile de voir qu'il ne voulait pas mourir. C'est trop comique, n'est-ce pas? Je veux être pendu s'il n'avait pas été acculé à un véritable suicide. Acculé, pris au piège. Au piège, ni plus ni moins. Au piège par le ciel, juste comme moi. Ah, s'il s'était seulement tenu tranquille. S'il les avait seulement envoyés au diable, quand ils étaient venus le tirer de sa couchette, parce que le bateau sombrait. S'il était seulement resté à l'écart, les mains dans les poches, en leur lançant des injures. Il se leva, secoua le poing, me regarda fixement et se rassit. « Encore une chance manquée, hein ? » murmurai-je. « Pourquoi ne riez-vous pas ? » demanda-t-il. « Une bonne fumisterie, machinée en enfer. Faiblesse du cœur. Quelquefois, je voudrais bien l'avoir eu, le cœur faible. » Ses paroles m'irritèrent. « Ah, vraiment ? » m'écriai-je avec une ironie profonde. « Oui, est-ce que vous ne le comprendriez pas ? » cria-t-il. « Je ne vois pas ce que vous pouviez demander de mieux, » ripostai-je avec colère. Il me lança un regard totalement incompréhensif. Encore un trait qui avait manqué le but. Et Jim n'était pas âme à se préoccuper de flèches perdues. Ma parole, il était trop peu soupçonneux. La partie n'était pas égale. J'étais heureux que mon projectile se fût égaré et qu'il n'eût même pas entendu le bruit de la corde de l'arc. Évidemment, il ne pouvait pas se rendre compte, sur le moment, que l'homme fût mort. La minute suivante, sa dernière minute à bord, fut remplie d'un tumulte de faits et de sensations qui l'assaillirent comme la mer bat un rocher. J'use à dessein de cette comparaison, parce que son récit me faisait sentir qu'il avait, d'un bout à l'autre de l'affaire, conservé une étrange illusion de passivité, comme s'il n'eût pas agi, mais se fût abandonné aux puissances infernales qui avaient fait de lui la victime désignée de leur farce sinistre. La première chose dont il prit conscience, c'est du grincement des lourds porte-manteaux qui consentaient enfin à tourner. Il y eut une vibration qui lui parut entrer dans son corps par ses semelles et monter du pont tout le long de son échine jusqu'au sommet de sa tête. Puis, devant le grain, tout proche maintenant, une seconde ondulation plus forte souleva la coque inerte en une secousse menaçante qui coupa le souffle de Jim tandis qu'il se sentait le cœur et le cerveau percés à coups de poignard par des cris de panique. « Amenez, pour l'amour de Dieu ! Amenez ! Amenez ! Le bateau coule !» Après quoi les garants coururent sur les poulies et des voix nombreuses à l'accent inquiet s'élevèrent sous les tentes. Quand ces gredins éclatèrent, leurs aboiements auraient suffi à éveiller les morts, m'expliquait Jim. Puis il y eut un grand éclaboussement, et Jim entendit un bruit sourd de piétinement et la chute de corps qui se précipitait dans le canot, littéralement jeté à la mer, en même temps que des cris confus. « Décrochez, décrochez, poussez, décrochez, au nom du ciel, voilà l'orage qui arrive !» Il entendit, bien au-dessus de sa tête, le faible murmure du vent, et sous ses pieds, un cri de douleur. À côté de lui, une voix perdue se mit à pester contre un émerillon. De l'avant à l'arrière, le bateau commençait à bourdonner comme une ruche en colère. Et avec le même calme dont il usait pour me raconter tout cela, il était très tranquille pour l'instant, très paisible de maintien, de voix et de visage, Jim continua sans la moindre précaution, pour ainsi dire, « Je butais dans ses jambes. » C'était sa première allusion à un mouvement quelconque de sa part. Je ne pus réprimer un grognement de surprise. Il y avait donc eu quelque chose, enfin, pour le faire bouger. Mais le moment exact où ce quelque chose était survenu, la cause qu'il avait arrachée à son immobilité, il ne s'en rendait pas mieux compte que l'arbre déraciné ne connaît la bourrasque qu'il a abattue. Tout cela était tombé sur lui. Les bruits, les spectacles, les jambes du mort par Jupiter. Une main diabolique lui enfonçait dans la gorge la farce infernale. Mais attention! Il ne voulait pas admettre avoir fait aucun mouvement volontaire du gosier pour avaler. La façon dont il vous ensorcelait pour vous faire partager une telle illusion était extraordinaire. Je l'écoutais comme j'aurais écouté une histoire de magie noire acharnée sur un cadavre. Il roula sur le côté, très doucement, et c'est la dernière chose dont je me souvienne à bord, poursuivait Jim. Peu m'importait ce qu'il faisait. On aurait cru qu'il voulait se relever. Moi, naturellement, je pensais qu'il allait le faire. Je m'attendais à le voir sauter devant moi par-dessus le bastingage pour se jeter dans le canot avec les autres. Je les entendais s'agiter en bas, et une voix qui semblait sortir du puits est là, « George !» Puis trois voix s'élevèrent ensemble, mais elles me parvinrent séparément aux oreilles. C'était un bêlement, un hurlement et un grognement. Oh ! Il eut un léger frisson, et je le vis se lever lentement, comme si d'en haut une main vigoureuse l'avait soulevé de sa chaise, par les cheveux. Lentement, toujours plus haut, de toute sa hauteur. Puis, quand ses genoux se furent raidis, la main le lâcha, et il vacilla un peu sur ses pieds. Son visage, ses mouvements, sa voix même me donnaient une si terrible impression d'immobilité silencieuse que lorsqu'il ajouta « Il braillait !» Je tendis involontairement l'oreille pour écouter le fantôme des cris que le silence ainsi créé allait me faire entendre. « Il y avait 800 personnes sur le bateau, » fit-il, en me clouant au dossier de ma chaise avec un regard atrocement vide. « 800 êtres vivants, et c'est le mort qu'ils appelaient, qu'ils suppliaient de descendre et de se sauver. « Sautez, George, sautez ! Oh, sautez !» Je me tenais là, une main sur le davier. J'étais très calme. La nuit s'était faite d'encre et l'on ne distinguait plus ni mer ni ciel. J'entendais le canot bondir, boum, boum, et pendant quelque temps, ce fut le seul bruit qui vint de ce côté-là. Mais, au-dessous de moi, le navire bourdonnait de rumeurs bavardes. Tout à coup, le capitaine hurla, « Mein Gott, voilà le crin poussé !» Sous le premier sifflement de la pluie, et la première rafale de vent, Il suppliait « Sautez, George ! On vous attrapera, sautez !» Le patna commençait à plonger doucement. La pluie le balayait comme une mer démontée. Ma casquette s'envola. Ma respiration était refoulée dans ma gorge. J'entendis un dernier appel sauvage qui me parvint comme si j'eusse été au sommet d'une tour. « George ! Oh, sautez !» Le navire plongeait la tête la première sous mes pieds. Il leva délibérément les mains vers son visage et fit des gestes du bout des doigts, comme pour arracher des toiles d'araignée qui l'eussent importuné. Puis il regarda une bonne demi-seconde dans sa paume ouverte, avant de lâcher « J'avais sauté ». Il se retint, détourna les yeux. « Faut-il croire » acheva-t-il. Ses clairs yeux bleus se tournèrent vers les miens avec un regard pitoyable, et le voyant devant moi, debout, confondu, douloureux, je me sentis oppressé par un sentiment attristé de sagesse résignée, jointe à la pitié profonde et ironique d'un vieillard impuissant devant un désastre d'enfant. « Il y paraît, grommelai-je. Je ne m'en étais pas aperçu avant d'avoir levé les yeux, m'expliqua-t-il vivement. Et c'est bien possible encore. Il vous forçait à l'écouter comme on écouterait un petit garçon dans la peine. Il ne savait pas. La chose était arrivée d'une certaine façon. Elle n'arriverait plus jamais. Il était à moitié tombé sur un corps en travers d'un banc. Il lui semblait que tout son côté gauche était enfoncé. Il roulait sur lui-même et vit confusément, au-dessus de sa tête, le bateau qu'il venait d'abandonner. Le feu rouge, agrandi par la pluie, faisait l'effet d'un bûcher allumé dans le brouillard, au sommet d'une colline. Le navire paraissait haut comme un mur et surplombait le canot comme une falaise. « Je souhaitais la mort, » cria-t-il. Il n'y avait plus à retourner en arrière. C'était comme si j'avais sauté dans un puits, dans un trou sans fond. Chapitre 10. Il noua ses doigts, puis les sépara. Rien n'était plus exact. C'est bien dans un trou sans fond qu'il avait sauté. Il était tombé d'une hauteur qu'il ne pourrait jamais plus escalader. Cependant, le canot avait dérivé en avant de l'étrave du patna. Ses occupants ne pouvaient pas se voir entre eux dans l'obscurité profonde. Ils étaient au surplus aveuglés et noyés à demi par la pluie. Ils auraient pu, m'expliquait Jim, se croire emportés par un torrent à travers une caverne. Ils tournaient le dos à la bourrasque. Le capitaine avait passé un aviron sur l'arrière pour maintenir l'embarcation sous le vent, et pendant 2 ou 3 minutes, la fin du monde avait paru toute proche, sous un nouveau déluge, dans une nuit de poids. La mer sifflait comme 20 000 bouillottes. C'est la comparaison de Jim, pas la mienne. Je me figure qu'il n'y eut plus guère de vent après la première rafale. Et à l'enquête, Jim lui-même avoua que la mer n'avait jamais été bien forte cette nuit-là. Accroupi à l'avant du canot, il jeta par-dessus son épaule un regard furtif. Il aperçut tout en haut du patna, à la tête du mât, une lueur jaune brumeuse comme celle de la dernière étoile qui va s'éteindre au ciel. « Je fus terrifié de la voir encore là, » m'expliqua-t-il. Ce sont ses propres paroles. Ce qui le terrifiait, c'est la pensée que tout n'était pas fini encore. Évidemment, il aurait voulu que toute cette abomination fût terminée aussi vite que possible. Personne ne faisait le plus petit bruit dans le canot. Il paraissait filer très vite dans la nuit, mais en fait, il ne devait pas avoir fait beaucoup de chemin. L'averse s'éloignait, et suivant la pluie, le grand sifflement affolant mourut dans le lointain. On n'entendait plus que le clapotis menu de la mer sur le fond du canot. Dans une bouche, des dents claquaient violemment. Une main toucha le dos de Jim, tandis qu'une pauvre voix soupirait « Vous êtes là ?» et qu'une autre s'écriait, toute tremblante « Il est parti !» Ils se retournèrent tous pour regarder derrière eux. Ils ne virent plus de lumière. Une pluie fine et glacée leur fouettait le visage. Le canot roulait doucement. Les dents claquèrent plus fort, s'arrêtèrent, puis repartirent par deux fois, sans que l'homme pût assez maîtriser son frisson pour dire « Juste à temps !» Jim reconnut la voix du chef mécanicien, qui déclarait d'un ton bourru « Je l'ai vu sombrer. Je tournais justement la tête. Le vent était presque complètement tombé. » Ils scrutaient l'ombre, le visage à demi tourné vers la brise, comme s'ils eussent écouté des cris. Jim avait été heureux d'abord que la nuit eût masqué la scène à ses yeux. Mais bientôt, l'idée que tout s'était passé sans qu'il eût rien vu ou entendu lui apparut comme le couronnement de l'atroce aventure. « C'est bizarre, n'est-ce pas ? » murmura-t-il en interrompant son récit décousu. Non, cela ne me paraissait pas bizarre. Il devait avoir eu l'inconsciente conviction que la réalité ne pouvait pas être de moitié aussi affreuse, aussi angoissante, aussi douloureuse, aussi hallucinante que la terreur enfantée par son imagination. En ce premier moment, son cœur dut être torturé par toute la souffrance. Son âme dut savourer l'accumulation de toutes les terreurs, de toute l'horreur, de tout le désespoir de 800 êtres humains assaillis dans la nuit par une mort brutale et soudaine. Pourquoi eût-il dit, sans cela, « Quelque chose me poussait à sauter de ce maudit canot, pour retourner jusqu'à eux, pour nager un demi-mille, plus peut-être, pour aller aussi loin qu'il faudrait, à l'endroit précis. Pourquoi cette impulsion ? En comprenez-vous la signification ? Pourquoi retourner à l'endroit même, au lieu de se laisser couler sur place, s'il voulait se noyer ? Pourquoi fut-il retourné sur les lieux, pour voir, comme si son imagination eût dû retrouver le calme dans la certitude que tout était fini, avant de demander à la mort son apaisement ? Je vous mets tous au défi de me fournir une autre explication. Je venais d'avoir un de ces aperçus singuliers et émouvants que l'on découvre à travers des trous de brume. C'était une révélation extraordinaire, et ce garçon-là s'exprimait tout naturellement. Il avait chassé son impulsion, cependant, et s'était tout à coup rendu compte du silence. Il me fit part de cette impression subite, devant le silence du ciel et de la mer fondue, autour de ces vies sauvées et palpitantes, dans une immensité infinie et muette comme la mort. On aurait entendu tomber une épingle dans ce canot, me dit-il, avec une contraction singulière des lèvres, comme un homme qui s'efforce de maîtriser sa sensibilité pour raconter une histoire extrêmement émouvante. Un silence. Dieu seul, qui avait voulu ce Jim tel qu'il était, savait l'effet d'un tel silence sur son cœur. Je ne croyais pas, reprit-il, qu'il pût y avoir sur terre un endroit aussi mort. On ne distinguait pas la mer du ciel, on ne voyait rien, on n'entendait rien. Il n'y avait pas une lueur, pas une forme, pas un son. On eût dit que le dernier lopin de terre avait été englouti, que les derniers humains, en dehors de moi-même et de ces gredins du canot, avaient été noyés. Il se pencha sur la table, la main parmi les tasses à café, les verres à liqueur et les bouts de cigares. Je me le serais volontiers imaginé. Tout avait disparu, et tout était fini. Il poussa un profond soupir pour moi. Marlowe se redressa brusquement et jeta avec force son cigare qui dessina une traînée rouge, comme une minuscule fusée lancée à travers le rideau de plantes grimpantes. Personne ne bougea. « Ah, qu'est-ce que vous dites de cela ? » s'écria-t-il avec une animation soudaine. Était-il assez logique avec lui-même ? À l'heure même du salut, perdu, faute d'un sol sous ses pieds, faute de vision devant ses yeux, faute de cris à ses oreilles. L'annihilation, n'est-ce pas ? Et tout cela pour un ciel chargé de nuages, pour une mer sans lame, pour un air immobile. Rien que pour la nuit, rien que pour le silence. Cet état persista quelque temps, puis tout à coup, et tous à la fois, les fuyards se mirent à se féliciter bruyamment de leur chance. J'avais bien vu du premier coup que tout était perdu. Pas une minute trop tôt. Nous l'avons échappé belle, sacré nom. Jim ne disait rien, mais la brise qui était tombée se remit à souffler, une brise douce, peu à peu fraîchie, et la mer joignit son murmure au bruit de ce bavardage déchaîné, en réaction contre les minutes de muette terreur. Le Patna avait disparu. La chose était incontestable. Personne n'y pouvait rien. Ils répétaient indéfiniment les mêmes paroles, comme s'ils n'eussent pu s'arrêter. Il n'y avait pas de doute que le bateau ne dût sombrer. Il n'y avait plus de feu, d'ailleurs. Pas d'erreur, il n'y avait plus de feu. On ne pouvait avoir aucun espoir. C'était fatal. Jim s'aperçut que ces hommes parlaient comme s'ils n'eussent laissé derrière eux qu'une coque vide. Il savait bien que la chose devait aller vite, une fois commencée, et cette pensée semblait leur valoir une sorte de satisfaction. Ils s'affirmaient l'un à l'autre que le plongeon ne pouvait guère durer. Il a coulé comme un fer à repasser. Le chef mécanicien déclara qu'il avait vu, au dernier moment, le feu du grand mât s'abîmer, comme une allumette que l'on jette à l'eau. Sur quoi son second se mit à rire convulsivement. « Je suis heureux ! Je suis heureux !»« Ses dents claquaient comme un timbre électrique, » me dit Jim. Et tout à coup, il se mit à pleurer. Il pleurnichait et hoquetait comme un enfant, avec des sanglots et de grandes aspirations. « Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Mon Dieu !» Il se tenait un instant tranquille pour éclater tout à coup à nouveau. « Oh, mon pauvre bras ! Mon pauvre bras !» J'aurais eu envie de l'abattre à coups de poing. Je distinguais confusément des ombres dans la chambre d'arrière où ces gredins étaient assis, et un bourdonnement grandeur de voix me parvenait aux oreilles. Tout cela était très dur à supporter, et j'étais glacé au surplus. Mais je ne pouvais rien faire. Je me disais que si je bougeais, il faudrait que je saute par-dessus bord pour... La main qu'il laissait errer à l'aventure entra en contact avec un verre à liqueur. Il la retira brusquement, comme s'il eût touché un charbon ardent. Je poussai légèrement la bouteille. « Encore un peu ? » demandai-je. Il me lança un regard de colère. « Croyez-vous donc que j'ai besoin de me remonter le moral pour vous raconter tout ce que j'ai à dire ? » s'écria-t-il. La bande des voyageurs avait regagné ses chambres, et nous restions seuls sous la véranda, à l'exception d'une vague forme blanche, confusément dressée dans l'ombre, et qui, sous nos regards, se pencha, hésita un moment, puis se retira. Il se faisait tard, mais je ne pressais pas mon invité. Il entendit tout à coup, du fond de son désespoir, ses compagnons se mettre à vomir des injures. « Qu'est-ce qui vous empêchait donc de sauter, espèce de toquet ?» grondait une voix bourrue. Le chef mécanicien quitta sa place pour grimper sur l'avant, comme s'il eût été animé d'intentions hostiles, à l'endroit du plus parfait idiot que l'on puisse voir. Le capitaine lançait à grands cris rauques, du banc où il se tenait avec son aviron, des épithètes insultantes. Le vacarme fit lever la tête à Jim, qui entendit appeler « George !» tandis que dans l'ombre, une main lui frappait la poitrine. « Qu'est-ce que vous avez à dire pour vous expliquer, imbécile ?» cria une voix avec un accent de vertueuse colère. « C'est à moi qu'ils en avaient, » expliqua Jim. « C'est moi qu'ils injuriaient sous le nom de George. » Il s'arrêta. Il me regarda fixement en s'efforçant de sourire, détourna les yeux et reprit « Voilà le petit mécanicien qui fourre sa tête juste sous mon nez. « Mon Dieu, c'est ce maudit second » s'écrie-t-il. « Comment ?» braille le capitaine à l'autre bout de la barque. « Non !» hurle le chef, et lui aussi se penche pour me regarder sous le nez. Le vent s'était à nouveau apaisé, brusquement. La pluie recommençait à tomber, et de tous côtés s'élevait dans la nuit le bruit doux, ininterrompu et un peu mystérieux que fait une averse en tombant sur la mer. Ils furent trop déconcertés, sur le coup, pour en dire plus, reprit Jim d'un ton posé. Et moi, qu'aurais-je eu à leur dire ? Il hésita un moment et fit un effort pour continuer. Ils me lancèrent des injures ignobles. Sa voix basse comme un souffle s'élevait brusquement, durcie de temps à autre par le mépris et la colère, comme s'il eût avoué des hontes secrètes. Mais qu'importaient leurs injures ? Poursuivit-il sèchement. Je percevais la haine dans leurs accents, et ce n'était point à tort. Ils ne me pardonnaient pas d'être dans ce canot. Cette idée leur était odieuse et les rendait fous. Il eut un rire bref. Mais leur colère même m'empêchait de... Tenez, j'étais assis sur le bord, comme ceci. Il se percha sur le bord de la table en croisant ses bras. Un simple mouvement en arrière et j'étais parti, vers les autres. Une petite secousse, toute petite, toute minime. Il fronça les sourcils et se frappant le front du bout du médius. Elle était là, tout le temps, cette idée, fit-il d'un air concentré. Tout le temps. Et la pluie froide, drue, froide comme de la neige fondue, plus froide même sur mes minces vêtements de coton. Je n'aurai plus jamais aussi froid de ma vie, je le sais. Et le ciel était noir, tout noir. Pas une étoile, pas une lueur, nulle part. Rien que ce maudit canot et ces deux gredins qui jappaient devant moi comme une paire de sales roquets, excités contre un voleur perché sur un arbre. Yap, yap, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes un beau type, un monsieur trop élégant pour donner un coup de main. Vous avez fini par sortir de votre léthargie, hein? Pour faire le mouchard, sans doute. Yap, 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 vous n'êtes pas digne de vivre. Yap, yap. Ils étaient deux à aboyer plus fort l'un que l'autre. Le troisième braillait de l'arrière sous la pluie. Je ne le distinguais pas. Je pouvais à peine saisir au vol quelques-unes de ses ignobles menaces. Yap, yap, brou, yap, yap. C'était bon de les entendre. Cela me retenait à la vie, je vous le dis. C'est cela qui m'a sauvé. Ils continuaient comme s'ils eussent voulu me pousser à l'eau, à force de vacarme. Bien étonnant qu'il ait eu le courage de sauter. On n'avait pas besoin de vous ici. Si j'avais su que c'était vous, je vous aurais flanqué par-dessus bord, espèce de poltron. Qu'est-ce que vous avez fait de l'autre? Où avez-vous trouvé le cœur de sauter, maudit couard? Qu'est-ce qui nous empêcherait tous les trois de vous jeter à l'eau d'un coup de revolver? Ils étaient hors d'haleine. L'averse s'éloignait sur la mer, puis il n'y eut plus rien. Il n'y avait rien autour du bateau, pas un bruit. Ils voulaient me jeter à l'eau, ah vraiment. Sur mon âme, je crois que leur désir eût été satisfait s'ils s'étaient seulement tenus tranquilles. Me jeter à l'eau? Ah oui. Essayez donc, dis-je. Je le ferai pour 4 sous. Ce serait encore trop bon pour vous, crièrent-ils tous ensemble. L'obscurité était telle que c'est seulement lorsque l'un ou l'autre d'entre eux bougeait que j'étais certain de le voir. Quelle extraordinaire aventure, ne pus-je m'empêcher de crier. Oui, ce n'était pas banal, n'est-ce pas, répondit-il, comme si mon interruption l'eût stupéfié. Il faisait semblant de croire que je m'étais, pour une raison quelconque, débarrassé de notre auxiliaire. Mais pourquoi l'aurais-je fait? Et comment diable pouvais-je même savoir? J'étais arrivé dans ce canot. Les muscles de ses lèvres se contractèrent en une inconsciente grimace, dessinée sous le masque de son expression habituelle. Ce fut quelque chose de violent, de bref et de révélateur, comme un éclair qui laisse un instant pénétrer les regards dans les profondeurs d'un nuage. Oui, j'y étais. J'étais bien certainement avec ces hommes. N'est-il pas affreux que l'on puisse être poussé à faire une chose pareille, et que l'on en soit responsable? Qu'est-ce que je savais, moi, de leur Georges, après qu'il braillait si fort? Je me souvenais de l'avoir vu plié en deux sur la passerelle. « Sale assassin !» me criait le chef mécanicien. On aurait dit qu'il ne savait plus d'autres mots. Cela m'était égal, leur vacarme commençait à m'agacer. « Fermez ça » ordonnai-je. Sur quoi il se tut un instant, pour reprendre avec un cri exaspérant « Vous l'avez tué, vous l'avez tué !»« Non !» hurlai-je. « C'est vous que je vais tuer !» Je bondis sur mes pieds, et il tomba à la renverse par-dessus un banc avec un bruit affreux. Je ne sais comment la chose se fit. La nuit était trop sombre. Il avait voulu reculer, probablement. Je continuai à regarder, à l'arrière, où le misérable petit mécanicien se mit à pleurnicher. « Vous n'allez pas taper sur un homme qui a un bras cassé, vous qui vous dites un gentleman !» J'entendis un pas lourd, un, deux, et un grognement poussif. C'était l'autre brute qui venait vers moi en raclant son aviron sur le bordage. Je le voyais s'avancer énorme, énorme, comme on voit une silhouette dans le brouillard ou dans les rêves. « Venez donc » criai-je. Je l'aurais flanqué à bas comme un ballot de chiffon. Il s'arrêta, grommela à mi-voix, puis retourna à l'arrière. Peut-être avait-il entendu le vent. Moi, pas. Ce fut la dernière grosse rafale qui nous tomba dessus. Il retourna à son aviron. À mon grand regret, j'aurais voulu le... Il ouvrit et ferma ses doigts recourbés en crochet, et ses mains eurent un frémissement ardent et cruel. « du calme, murmurai-je. « Hein, comment ? Mais je ne suis pas agité, protesta-t-il avec une émotion douloureuse et avec un geste convulsif du coude qui renversa la bouteille de cognac. Je m'élançai en faisant grincer les pieds de mon siège. Lui s'écarta d'un bond de la table, comme si une mine eût fait explosion derrière son dos. Puis il se retourna à demi en me montrant les yeux éperdus et un visage blême autour des narines, avant de se laisser tomber à terre, accroupi sur les talons. Il avait une mine d'intense vexation. « Bien fâché ! Quelle maladresse » grommelait-il avec confusion, tandis que dans l'ombre pure et fraîche de la nuit se répandait une pénétrante odeur d'alcool qui nous enveloppait d'une atmosphère de café et de bas étage. Les lumières étaient éteintes dans la salle à manger, notre bougie brillait seule d'un bout à l'autre de la longue galerie, et du pied au chapiteau, les colonnes se dressaient toutes noires. De l'autre côté de l'esplanade, le sommet des bureaux du port se profilait distinctement sur le champ des étoiles, et l'on aurait dit que le sombre édifice avait glissé sur sa base pour s'approcher de nous et mieux nous écouter. Jim prit un air d'indifférence. « Il faut croire que je suis moins calme aujourd'hui qu'à ce moment-là. Je me sentais prêt à tout. Et quant à ces bêtises... « Vous avez dû passer de joyeux moments dans le canot, interrompis-je. « J'étais décidé, répéta-t-il. Une fois disparus les feux du navire, tout aurait pu arriver dans notre embarcation, tout, sans que le monde en sût rien. Je le sentais, et cette pensée me faisait du bien. Il faisait juste assez sombre aussi. Nous étions comme des emmurés vivants dans une vaste tombe. Nous n'avions plus rien de commun avec quoi que ce fût au monde, et personne ne pouvait rien soupçonner de nos gestes. Rien n'importait plus. Pour la troisième fois depuis le début de notre conversation, il eut un rire sec, mais il n'y avait plus personne près de nous pour le soupçonner d'être seulement ivre. « Ni crainte, ni loi, reprit-il, ni bruit, ni regard, pas même les nôtres, jusqu'au lever du soleil au moins. » Je fus frappé parce que ces paroles comportaient de vérités suggestives. Il y a quelque chose de particulier dans le sort d'une petite embarcation perdue au milieu de la mer. Sur les vies qui fuient l'ombre de la mort, semble planer l'ombre de la folie. Quand votre navire vous a abandonné, c'est le monde entier qui semble disparaître avec lui. Le monde qui vous a fait, qui contenait vos élans, qui vous surveillait. On dirait que les âmes des hommes perdues sur un abîme et en contact avec l'immensité sont abandonnées à tous les excès de l'héroïsme, de la folie ou de l'horreur. Évidemment, il en est des naufrages comme des croyances, de la pensée, de l'amour, de la haine, des convictions, ou de l'aspect même des choses matérielles. Il y a autant de sinistres qu'il y a d'hommes, et dans celui-là, il y avait quelque chose d'abject qui faisait l'isolement plus complet. Il y avait, dans les circonstances, une vilenie qui retranchait plus nettement ces âmes d'une humanité dont l'idéal de conduite n'avait jamais été soumis à l'épreuve d'une farce diabolique et hideuse. Ils étaient enragés contre Jim, de n'être qu'un demi-lâche, et lui concentrait sur eux une haine exaspérée par les événements. Il aurait aimé se venger, d'éclatante façon, de l'odieuse tentation qu'ils avaient placée sur sa route. Fiez-vous à un canot en pleine mer, pour vous faire ressortir tout ce qui se tapit d'instinctif au fond de toute pensée, de tout sentiment, de toute sensation, de toute émotion. C'est la mesquinerie même, la mesquinerie burlesque de cette triste aventure qui empêcha ces hommes d'en venir aux mains. Tout se passa en menace, tout se réduisit à une farce terriblement effective, à une duperie d'un bout à l'autre, à une comédie montée par le redoutable dédain des sombres puissances dont les terreurs réelles, toujours sur le point de triompher, sont toujours déjouées aussi par la fermeté des hommes. Je demandais, après un instant de silence, « Eh bien, qu'est-il arrivé ?» Question oiseuse. J'en savais trop déjà, pour espérer la grâce d'un trait rédempteur, la faveur d'un soupçon de folie ou d'une ébauche de délire. « Rien, » fit-il. Moi, je parlais sérieusement, mais eux, ils ne songeaient qu'à faire du tapage. Il n'est rien arrivé du tout, et le soleil levant le trouva à l'endroit même où il avait sauté à l'avant du canot. Quelle obstination dans l'attente! Toute la nuit, il avait tenu à la main la barre du gouvernail. Les gueux avaient laissé tomber le gouvernail à l'eau en essayant de le monter, et la barre avait dû être brisée d'un coup de pied pendant qu'il courait de l'avant à l'arrière en s'efforçant de faire 10 choses à la fois pour s'éloigner du navire. C'était un long manche de bois dur et pesant, et Jim avait dû le tenir serré pendant 6 heures ou plus. Si vous n'appelez pas cela être prêt, vous le représentez, vous, debout et muet, la moitié de la nuit, le visage exposé aux rafales de pluie, guettant des formes confuses, attentives à de vagues mouvements, tendant l'oreille pour saisir des murmures rares et étouffés sortis de la chambre. Ferme courage ou effort de la crainte, qu'en pensez-vous? Mais en tout cas, son endurance est indiscutable. 6 heures plus ou moins sur la défensive, 6 heures de station vigilante, pendant que le canot avançait doucement ou restait immobile, selon les caprices du vent. Tandis que la mer apaisée retombait à son sommeil, tandis que les nuages passaient au-dessus de sa tête, tandis que l'immensité du ciel, d'abord noir et opaque, se rétrécissait en une voûte luisante et sombre, toute étincelante de splendeurs nouvelles, puis s'éteignait vers l'orient et pâlissait au zénith. Tandis que les formes obscures qui masquaient à l'arrière les étoiles les plus basses prenaient dessin et relief, devenaient des têtes, des épaules, des visages, des traits, se dressaient devant lui avec des yeux hagards et des cheveux en désordre, avec des vêtements déchirés, avec des paupières rouges et clignotantes sous l'aube blême. On aurait dit qu'il s'était roulé dans des ruisseaux pendant une semaine d'ivresse, m'expliqua pittoresquement Jim. Puis il grommela quelques mots sur le soleil levant, dont l'aspect présageait un beau jour. Vous connaissez cette habitude des marins d'en revenir au temps à propos de tout. Il me suffisait à moi de ces paroles confuses pour voir le bord inférieur du disque solaire couper la ligne d'horizon, pour évoquer le frémissement qui passait sur toute la surface de la mer, comme si l'enfantement du globe de lumière eût fait frissonner les eaux, tandis que la dernière bouffée de brise mettait dans l'air un soupir de soulagement. Ils étaient assis à l'arrière, épaule contre épaule, comme 3 vilains hiboux. Et il tenait les yeux fixés sur moi. Jim prononça ces paroles avec un accent de haine qui mettait une vertu corrosive dans la phrase banale, comme on laisse tomber dans un verre d'eau une goutte de poison redoutable. Mais ma pensée s'attachait à ce lever de soleil. Je voyais, sous la vide transparence du ciel, ces 4 hommes emprisonnés dans le désert de la mer. Je voyais, solitaire et dédaigneux de cet atome de vie, l'astre escaladait la voûte claire, comme pour contempler d'une hauteur plus grande de sa propre splendeur reflétée dans une mer immobile. Ils me parlèrent, reprit Jim, comme si nous eussions été bons amis. Je les entendais. Ils me suppliaient d'être raisonnable et de lâcher cette sacrée barre de bois. Pourquoi m'obstinais-je dans mon attitude? Ils ne m'avaient rien fait, n'est-ce pas? Aucun mal, aucun mal. Son visage s'empourpra comme s'il n'eût pu chasser l'air de ses poumons. « Pas de mal, éclata-t-il, je vous demande un peu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous voyez, n'est-ce pas? Pas de mal, bon Dieu, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de pis? Ah oui, je sais bien, j'ai sauté. Certainement j'ai sauté, je vous l'ai avoué. Mais je vous dis aussi que ces gens-là étaient trop forts. C'était leur faute, aussi nettement leur faute que s'ils m'eussent harponné avec une gaffe pour me tirer. » Vous ne comprenez pas cela? Il faut que vous le compreniez. Allons, voyons, franchement. Ses yeux inquiets, rivés sur les miens, questionnaient, mendiaient, défiaient, imploraient. Au péril de ma vie, je n'aurais pu m'empêcher de murmurer. Vous avez été bien éprouvé. Plus qu'il n'est juste, riposta-t-il vivement. On n'a pas l'ombre d'une chance avec une clique pareille. Et maintenant, nous étions amis. Oh, si odieusement amis, camarades, copains, tous dans le même bateau. Il n'y avait plus qu'à s'en tirer de son mieux. Il n'avait rien dit, il se souciait de Georges comme d'une vieille pantoufle. Georges était retourné à sa cabine, au dernier moment, et s'était fait pincer. Cet homme-là était un imbécile, cela se voyait bien. Affaire regrettable, évidemment. Leurs yeux me regardaient, leurs lèvres bougeaient. Ils hochaient la tête à l'autre bout du bateau. Tous les trois. Ils me faisaient des signes, à moi. Pourquoi pas, après tout? Est-ce que je n'avais pas sauté? Je ne disais rien. Il n'y a pas de paroles pour exprimer les choses que j'aurais voulu dire. Si j'avais ouvert la bouche à ce moment-là, je me serais mis à hurler comme une bête. Je me demandais quand j'allais m'éveiller. Il me pressait à grands cris de venir à l'arrière et d'écouter tranquillement ce que les capitaines avaient à nous dire. Nous étions certains d'être recueillis avant le soir. Nous nous trouvions en plein sur la route du canal. On voyait déjà de la fumée au nord-ouest. Ce fut pour moi une secousse affreuse que d'apercevoir cette tache claire, claire, cette traînée basse de brouillard brun, à travers laquelle on distinguait la limite du ciel et de la mer. Je leur criai que j'entendais très bien de ma place. Le capitaine éclata en jurons lancés d'une voix rauque, comme celle d'un corbeau. Il n'allait pas brailler à tue-tête pour ma commodité. « Auriez-vous peur qu'on vous entende de la terre ?» demandai-je. Il me regarda comme s'il eût voulu me déchirer. Le chef mécanicien lui conseilla de se plier à ma fantaisie. Il affirmait que je n'avais pas encore trouvé toute ma tête. L'autre se dressa sur l'arrière comme un énorme pilier de chair et se mit à parler. À parler. Jim restait rêveur. « Eh bien, insistai-je. Que m'importait le récit qu'il leur plaisait d'imaginer ? » s'écria-t-il violemment. Ils pouvaient bien raconter ce qu'ils voulaient, c'était leur affaire. Je connaissais la vraie histoire, moi, et tout ce qu'ils pourraient raconter aux autres n'y changerait rien pour moi. Je les laissais pérorer, discuter encore. Le capitaine bavardait sans trêve. Tout à coup, je sentis mes jambes s'effondrer sous moi. J'étais brisé de fatigue, épuisé à mourir. Je lâchai ma barre, tournai le dos aux autres, et m'assis sur le premier banc. Ils m'appelèrent pour me demander si j'avais compris. N'était-ce pas vrai, du premier au dernier mot, tout ce qu'ils racontaient? Mon Dieu, à leur façon, c'était vrai. Je ne tournais pas la tête, mais je les entendis palabrer. L'imbécile ne veut rien dire. Oh, il comprend parfaitement. Laissez-le donc tranquille, il saura bien se débrouiller. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Et que pouvais-je faire, en effet? N'étions-nous pas tous dans le même bateau? Je m'efforçais de rester sourd. La fumée avait disparu vers le nord. Nous étions pris dans un calme plat. Ils durent se désaltérer au baril d'eau, et moi je bus aussi. Après quoi ils se donnèrent beaucoup de peine pour étendre la voile sur le plat-bord. Je voulais bien me charger de faire le guet. Ils se glissèrent sous la toile, loin de mes regards, grâce à Dieu. Je me sentais là, là, à bout de force, comme si je n'eusse pas goûté une heure de sommeil depuis le jour de ma naissance. L'éclat du soleil m'empêchait de voir la mer. De temps en temps, l'un des gredins faisait une apparition pour inspecter du regard le tour de l'horizon, puis se glissait à nouveau sous la toile, d'où sortaient des bouffées de ronflements. Il pouvait dormir là-dedans. L'un d'eux dormait au moins. Moi, je ne pouvais pas. Tout n'était que lumière, et dans cette lumière, le canot semblait tomber. De temps à autre, j'étais tout surpris de me trouver sur un banc. Jim se mit à marcher à pas comptés, de long en large, devant ma chaise, une main dans la poche de son pantalon, et la tête rêveusement penchée. Il levait parfois le bras droit en un geste qui semblait destiné à repousser un invisible intrus. « Vous allez croire que j'étais fou, » fit-il plus posément, « et vous seriez en droit de le croire. » Si vous vous rappeliez que j'avais perdu ma casquette. Tout le long de sa course, de l'est à l'ouest, le soleil tapa sur ma tête nue. Mais ce jour-là, rien ne pouvait me faire de mal, sans doute. Le soleil ne pouvait pas me rendre fou. Son bras droit écartait l'idée de folie. Et il ne pouvait pas me tuer non plus. Son bras repoussait une ombre nouvelle. Cela, c'était mon affaire. « Ah, vraiment, » fis-je, avec une inexprimable stupeur devant cette volte inattendue. Je le regardais avec l'étonnement que j'aurais pu éprouver si, après une pirouette sur les talons, il m'eût présenté un visage entièrement nouveau. Je n'ai pas attrapé de fièvre cérébrale. Je ne suis pas tombé mort, poursuivait-il. Je ne m'inquiétais nullement du soleil sur ma tête. Je réfléchissais aussi froidement que réfléchit jamais un homme assis à l'ombre. Cette brute graisseuse de capitaine sortit de la toile sa grosse boule tondue et grommela en fixant sur moi ses yeux louches. « Donnerwetter, vous allez vous tuer !» Puis il rentra bien vite sa tête, comme une tortue. Je l'avais vu, je l'avais entendu, et le cours de mes réflexions n'en fut pas interrompu. Je me disais, à ce moment précis, que je n'allais pas mourir. il laissa tomber sur moi en passant un regard attentif qui s'efforçait de lire mes pensées. « Voulez-vous dire que vous agitiez en vous-même l'idée de vous tuer ?» demandai-je avec l'accent le plus impénétrable que je pus trouver. Il fit un signe de tête sans s'arrêter. « Oui, j'en étais arrivé là, au cours de ma veillée solitaire, avoua-t-il. » Il fit quelques pas jusqu'à la limite imaginaire de sa ronde, et lorsqu'il revint vers moi, il avait enfoncé ses deux mains dans ses poches. Il s'arrêta net devant ma chaise et baissa les yeux sur moi. « Est-ce que vous ne me croirez pas ?» demanda-t-il avec une curiosité douloureuse. Je me sentis ému et lui affirmai solennellement que j'étais prêt à ajouter une foi implicite à tout ce qu'il jugerait bon de me raconter. Il m'écoutait, la tête penchée de côté, et ce fut une nouvelle éclaircie qui laissa pénétrer mes regards dans la brume où il vivait et se mouvait. La bougie pétillait sous son globe de verre, et c'était la seule lumière qui l'éclaira pour moi. Derrière son dos, il y avait la nuit noire et les claires étoiles, disposées sur des plans reculés, dont le scintillement lointain attirait les regards sur les profondeurs d'une obscurité plus épaisse. Et pourtant, une mystérieuse lumière semblait éclairer à mes yeux son jeune visage, comme si tout ce qu'il y avait en lui de jeunesse se fût, à ce moment précis, exhalé en vapeur lumineuse. « Vous êtes vraiment bon de m'écouter comme cela, » fit-il. « Cela me fait du bien. Vous ne savez pas ce que cela représente pour moi. » Les mots parurent lui faire défaut. Encore un aperçu, bien net cette fois. Ce garçon-là était bien de ceux que l'on aime avoir autour de soi, décidément. Du modèle sur lequel on aime à se croire taillé soi-même. De l'espèce dont le seul aspect réveille ces illusions que l'on croyait éteintes, mortes, glacées, et que l'approche d'une autre flamme suffit à rallumer, avec un frémissement lointain, lointain, d'où sort brusquement un éclat de lumière, de chaleur. Oui, j'eus une vision de son cœur à ce moment précis, et ce ne fut pas la dernière. Vous ne savez pas ce que c'est pour un homme dans ma situation de se sentir cru, de décharger son cœur devant un aîné. C'est si difficile, si affreusement inique, si dur à comprendre. La brume s'épaississait à nouveau entre nous. J'ignore ce qu'il pouvait discerner en moi de maturité ou de sagesse. Certes, il ne me croyait pas de moitié aussi vieux que je me sentais, de moitié aussi inutilement sage que je l'étais. Dans nul autre métier, autant que dans celui de la mer, le cœur de ceux qui se jetèrent à l'eau, pour y sombrer ou pour surnager, n'est attiré vers l'enfant qui se trouve à son tour au bord de l'abîme, et contemple avec des yeux brillants cet étincellement de la vaste surface qui n'est qu'une réflexion du feu de ses regards. Il y a tant de vagues splendeurs dans l'espoir qui nous poussait vers la mer, tant de gloires brumeuses, une telle soif d'aventure qui trouveront en elles-mêmes leur seule récompense. Ce que nous finissons par trouver, n'en parlons pas. Mais y en a-t-il un de nous qui puisse, devant une telle évocation, réprimer un sourire? Dans nulle autre existence, l'illusion n'est plus éloignée de la réalité. Nul autre ne comporte des débuts qui ne soient qu'illusions. Aucune ne connaît de désenchantement aussi rapide ou d'aussi complet asservissement. N'avons-nous pas tous commencé avec le même désir, fini avec la même expérience, emporté le souvenir du même espoir splendide, gardé au fond de notre cœur, à travers les jours hideux d'imprécation? Y a-t-il donc rien d'étonnant à ce que, le jour où quelque rude coup vous atteint, on se sente attaché à cette vie-là par des liens très étroits, à ce qu'à côté des camaraderies de métier, on éprouve la puissance d'un sentiment plus profond, le même qui attache un homme à un enfant? Et là, devant moi, avec sa naïve certitude que l'âge et la sagesse peuvent fournir un remède aux douleurs de la vérité, il me donnait le spectacle d'un enfant pris au piège, au plus odieux des pièges, tombé dans un de ces traquenards devant quoi les barbes grises hochent solennellement la tête tout en dissimulant un sourire. Et il avait songé à la mort, le misérable. Voilà le sujet de méditation qu'il avait trouvé, parce qu'il songeait que si sa vie avait été sauvée, toute la magie en avait sombré dans la nuit avec le navire. C'était, en toute conscience, assez de tragédie et assez de grotesque pour appeler à haute voix la compassion. Avais-je rien de meilleur que les autres pour lui marchander ma pitié? Mais au moment où je le voyais ainsi, la brume se referma et sa voix reprit. Je me sentais si désemparé, vous savez. C'est une de ces sortes d'aventures auxquelles on ne peut s'attendre. Ce n'est pas comme une bataille, par exemple. Non, en effet, approuvai-je. Il paraissait changé, comme s'il avait mûri tout à coup. On ne pouvait pas être sûr, murmura-t-il. Ah, vous n'étiez pas sûr, ricanai-je. Mais je me sentis aussitôt apaisé par le bruit d'un faible soupir qui passa entre nous comme un vol d'oiseau dans la nuit. Non, avoua-t-il ingénument. C'est un peu comme cette misérable histoire qu'ils avaient imaginée. Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas la vérité non plus. C'était quelque chose. Un mensonge manifeste, cela se reconnaît. Mais dans cette affaire-là, il n'y avait pas une épaisseur de feuille de papier entre le vrai et le faux. Qu'est-ce qu'il vous fallait donc de plus ? Demandai-je. Mais je parlais si bas qu'il ne dut pas m'entendre. Il avait présenté ses arguments comme si la vie était un réseau de sentiers séparés par des abîmes. Et sa voix avait un accent de raison. Supposez que je n'ai pas, je veux dire, supposez que je sois resté sur la passerelle. Eh bien, pour combien de temps eût-ce été ? Admettons une minute, une demi-minute peut-être ? Voyons. Il paraissait certain que j'allais être à l'eau 30 secondes plus tard. Croyez-vous que je ne me serais pas cramponné au premier objet qui me fut tombé sous la main, aviron, bouée de sauvetage, ou caille-bottie, à n'importe quoi? Et vous? Et que vous auriez été sauvé, commentai-je? C'eût été tout mon effort, répliqua-t-il. Et c'est plus que je n'en saurais dire du moment où... Il frissonna comme s'il avait dû avaler une drogue nauséeuse. Où j'ai sauté, acheva-t-il, avec un effort convulsif, dont la violence parut se propager dans l'air comme une vague, et vint me faire sauter légèrement sur ma chaise. Il abaissa sur moi un regard scrutateur. « Vous ne me croyez pas ? » cria-t-il. « Je jure ! Malédiction ! Vous me traînez ici pour me faire parler. Et il faut, vous aviez dit que vous me croiriez. »« Mais oui, je vous crois, » protestai-je, sur un ton posé, qui eut un effet calmant. « Pardonnez-moi, » fit-il. Je ne vous aurais pas parlé de tout cela, si vous n'eussiez été un galant homme. J'aurais dû savoir. Moi aussi je suis un galant homme. Mais oui, bien sûr, répliquai-je vivement. Il me regarda en face, carrément, avant de détourner lentement les yeux. Maintenant, vous comprenez pourquoi, somme toute, je n'ai pas cédé à mon désir. Je ne voulais pas me laisser gagner par l'épouvante de ce que j'avais fait. D'ailleurs, si j'étais resté sur le bateau, j'aurais lutté jusqu'au bout pour me sauver. Il y a des gens qui restent des heures en pleine mer, et qui sont recueillis sans s'en porter beaucoup plus mal. Moi, j'aurais pu tenir plus longtemps que bien d'autres. Je n'ai pas le cœur malade, moi. Il tira son poing droit de sa poche, et le coup dont il se frappa la poitrine résonna dans la nuit comme une détonation sourde. Non, approuvai-je. Il méditait, les jambes légèrement écartées et le menton baissé. « Un cheveu, » murmura-t-il, « pas même un cheveu entre ces deux décisions-là. » Et sur le moment, « Il n'est pas facile de distinguer un cheveu dans la nuit, » raillais-je, avec une certaine méchanceté, je le crains. « Comprenez-vous ce que j'entends par la solidarité du métier ? » Je lui en voulais comme s'il m'eût frustré, moi, d'une occasion admirable qui aurait servi mes illusions sur mes propres débuts de vie. Comme s'il eût dépouillé cette vie qui nous était commune de son dernier reflet de beauté. Alors, repris-je, vous avez filé, sans hésitation. J'ai sauté, corrigea-t-il nettement. Sauté, comprenez-vous ? Insista-t-il en me laissant étonné de son intention manifeste, mais obscure. Oui, peut-être ne pouvais-je pas bien voir à ce moment-là. Mais dans la barque, j'ai eu tout le temps, tout le jour nécessaire, et je pouvais réfléchir aussi. Personne ne devait rien savoir, naturellement. Mais cette certitude ne me rendait pas les choses plus faciles. Cela aussi, il faut bien que vous le croyiez. Ce n'est pas moi qui ai cherché cette conversation. Non. Si. Non, je ne veux pas mentir. J'en avais besoin. C'est ce dont j'avais besoin par-dessus tout. Croyez-vous que vous ou un autre m'eussiez fait parler si je... Oh, je n'ai pas peur de parler. Et je n'avais pas peur de penser non plus. Je regardais la situation en face, je n'allais pas me dérober. Au premier moment, cette nuit-là, n'eussent été ces gredins, j'aurais pu, mais non, par le ciel. Je ne voulais pas leur donner cette satisfaction. Ils en avaient assez fait, ils avaient fabriqué une histoire, et ils y croyaient peut-être, pour ce que j'en sais. Mais moi, je connaissais la vérité, et j'entendais emporter le poids seul, tout seul avec moi-même. Je ne voulais pas lâcher pied devant une chose aussi odieusement injuste. Qu'est-ce que cela prouvait, après tout? J'étais parfaitement effondré, écœuré de la vie et la vérité. Mais qu'est-ce que j'aurais gagné à fuir de cette façon-là? Ce n'était pas la bonne solution. Je crois que cela n'eût rien terminé. Il marchait de long en large, mais sur ces derniers mots, il se retourna tout net vers moi. « Quelle est votre idée à vous ?» me demanda-t-il avec violence. Un silence tomba, et je me sentis tout à coup accablé par une lassitude profonde et insurmontable, comme si sa voix m'eût arraché à un rêve, arrêté brusquement dans une course errante à travers les espaces vides dont l'immensité eût harassé mon âme et épuisé mon corps. « Rien terminé, » répétait-il avec entêtement, après un instant d'hésitation. Non, ce qu'il fallait, c'était affronter les conséquences de mon acte, tout seul, avec moi-même. C'était attendre une occasion nouvelle et trouver